Le journal de Jérémy Pignard.
Bonsoir. Petite révolution numérique à Jura Tourisme. Le Jura Pass va devenir une application web, une manière d'être en contact permanent avec le touriste. Le Conseil des États prête à assouplir la règle pour la réexportation du matériel de guerre. Les sénateurs ont accepté de plancher sur la loi, mais le sacro-saint principe de neutralité fait toujours débat, vous l'entendrez. Courgenay s'apprête à accueillir 1300 gymnastes ce week-end. C'est la fête cantonale jurassienne de gymnastique. Une fête, oui, mais aussi une compétition, nous diront les organisateurs. Un temps globalement bien ensoleillé demain pour la fête Dieu, mais les formations nuageuses l'après-midi sont annonciatrices du retour des orages pour la fin de journée. Il fera chaud jusqu'à 27 degrés. Et on évoque d'abord cette altercation à Bonfols entre plusieurs personnes qui a déclenché cet après-midi le déploiement d'un gros dispositif policier. Vers 13h, des patrouilles de gendarmerie se sont déplacées sur les lieux et une ambulance a été mandatée à titre préventif. Selon des témoins, le groupe d'intervention a été envoyé sur place. Les intervenants ont rapidement pu maîtriser la situation et une personne a été légèrement blessée lors de l'altercation. Une procédure pénale est en cours, précise la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Un changement qualifié de fondamental pour le tourisme jurassien. Le Jura Pass sera numérique à partir du 26 juin. Changement présenté cet après-midi lors de l'Assemblée de Jura Tourisme. Lancé en 2015, le Jura Pass offre un libre accès au transport public pour toutes les personnes qui séjournent au minimum une nuitée dans la région. Passer à une application web permettra d'être en contact permanent avec les clients durant leur séjour. Avantage intéressant pour le directeur de Jura Tourisme, Guillaume Lachat.
Autrefois, ou encore actuellement, pour ce mois de juin, c'est un titre de transport en format papier, donc qui nous laisse peut-être aucun contact avec le client une fois qu'il est dans la région, au-delà de l'émission du Jura Pass. Là, quelque part, chaque matin au réveil ou durant sa journée, on est aux côtés du touriste qui est dans la région pour l'inciter à visiter l'activité qui n'est pas trop loin de lui, s'il pleut, à lui indiquer les activités qui se trouvent en intérieur, lui offrir des rabais, la possibilité de réserver en ligne directement des activités. Donc là, on est clairement davantage aux côtés et au service du touriste qui est dans la région. Dans les lignes directrices de Jura Tourisme, nous avons pour objectif d'augmenter le nombre de touristes. Ça semble être logique d'un point de vue d'une organisation touristique, mais pour nous, ce n'est pas forcément le but premier. Le but premier, désormais, c'est de faire que les touristes qui sont sur place dépensent davantage, au-delà de leur nuitée, dans des activités, dans des commerces, dans des restaurants. Et c'est dans ce sens-là qu'on a souhaité aussi digitaliser le Jura Pass qui prendra effet au 26 juin.
Pauline Christostettler renonce à son mandat de députée suppléante au Parlement jurassien, une décision de l'élu socialiste pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêts après la nomination de son mari comme porte-parole du gouvernement. La loi ne l'oblige pas à démissionner, elle parle d'un choix personnel. Les citoyens de l'Ajoux se réunissent ce soir en assemblée communale. Ils se prononceront notamment sur les comptes 2022 qui bouclent sur un déficit de près de 71 000 francs. Un crédit d'investissement de 120 000 francs sera également soumis au vote pour la révision du plan d'aménagement local. Le rendez-vous est à 20h à la Maison des Œuvres. Et dans quelques minutes sur RFJ, vous avez rendez-vous avec Pure Politique. Au programme ce soir, l'épineuse question de la destitution d'un élu ou d'un magistrat en cas de faute grave. Sujet qui sera soumis au peuple en votation le 18 juin prochain. Pure Politique, c'est à 18h20, juste après le journal. Le Grand Conseil bernois dit oui au crédit pour des locaux provisoires pour la justice et police dans le Jura bernois en vue du transfert de Moutier. Sa commission des infrastructures et de l'aménagement s'y était pourtant opposée. Elle demandait aussi de renoncer à la construction d'un bâtiment définitif à Reconvilier pour l'administration régionale, trop coûteux selon elle. Proposition refusée. Après 5 heures de débat et 3 suspensions de séance, la présidente de la députation francophone, Anne-Caroline Graber, se sentait lessivée.
Ah, écoutez, comme après un marathon avec de multiples rebondissements, des rythmes différents et puis un final qui a été extrêmement pénible. Et la députation n'est absolument pas responsable de cette situation qui était une situation de crise. Heureusement, nous avons réussi à sortir de cette situation de crise et finalement, la décision finale est très, très bonne pour nous. C'est très positif aussi pour le Jura bernois. Nous avons voté créer pour avoir des bâtiments provisoires qui doivent être prêts au 31 décembre 2025 dans la perspective du départ de Moutier pour le canton du Jura. Ces bâtiments provisoires doivent être prêts à Tavannes, à Lovresse pour la police stationnaire, la police mobile et à Bienne pour accueillir le tribunal régional et les ministères publics. Donc on peut dire que c'est un grand jour pour le Jura bernois, pour la députation, mais pour le canton de Berne aussi. Nous avons une très bonne solution.
Et le crédit pour la construction d'un bâtiment à Reconvilier pour la justice et la police sera donc débattu lors de la prochaine session du Grand Conseil en automne. Un nouveau prix pour des projets qui participent au dynamisme local et régional. Il est lancé par l'association arcjurassien.ch qui regroupe les cantons du Jura, de Berne, Neuchâtel et Vaud. Le prix est doté de 20 000 francs. Il récompensera les initiatives qui concrétisent la vision stratégique pour l'Arc Jurassien 2040 face aux défis environnementaux, sociétaux et économiques. Modalités sur rfj.ch. Les sénateurs sont prêts à revoir la règle pour la réexportation d'armes à l'étranger. Le Conseil des États est entré en matière ce matin sur une modification de la loi sur le matériel de guerre. L'idée est d'assouplir les conditions pour les pays qui sont attachés à nos valeurs et ont un même système de contrôle. Lors d'une livraison d'armes, la déclaration de non-réexportation serait limitée à 5 ans. L'État concerné n'aurait pas le droit de revendre le matériel à un pays impliqué dans un conflit armé, sauf en cas d'autodéfense. Pour le conseiller aux États du Centre Charles Juillard, la neutralité suisse est préservée.
Nous avons effectivement auditionné des experts en commission, 4 experts qui arrivaient avec des arguments différents aux conclusions identiques en disant mais la convention de la Haye sur le droit de la neutralité n'interdit pas à une entreprise suisse ou à un pays, mais surtout à une entreprise suisse, de vendre des armes à l'étranger, y compris aux belligérants, pour autant qu'on respecte une forme d'égalité de traitement. Donc, par contre, ce qui empêche aujourd'hui le Conseil fédéral de pouvoir autoriser ces réexportations, c'est le droit suisse, c'est le droit interne suisse, c'est la loi fédérale sur le matériel de guerre. Mais ce n'est absolument pas la convention de la Haye sur le droit de la neutralité.
Et la gauche, en revanche, s'est opposée à cet assouplissement, à l'image de la sénatrice verte Céline Vara, qui considère au contraire que le principe de neutralité est remis en question.
On a entendu un certain nombre de spécialistes, de juristes, de spécialistes de l'armement, de spécialistes du droit international, des relations internationales. Et aujourd'hui, on voit bien que si l'on veut accéder à cette demande-là, eh bien on remet en question totalement le droit de la neutralité en Suisse. Les juristes de la Confédération ont été extrêmement clairs. Si nous accédons à cette demande, eh bien, la Suisse n'est plus un pays neutre. Et je crois qu'il faut le dire extrêmement clairement aujourd'hui. La Suisse a un intérêt à investir dans l'aide humanitaire pour l'Ukraine, ce qu'elle fait, à investir dans ses bons offices. Voilà, on a cette expérience-là en Suisse pour promouvoir la paix. Alimenter une guerre avec des armes, ça n'a jamais été un bon moyen d'y mettre fin.
Et un dossier qui doit encore passer devant le Conseil national avant élaboration d'un projet de loi en cas d'acceptation. Retour dans la région où la Raiffeisen Arena s'apprête à vibrer, non pas pour des sportifs cette fois, mais pour des artistes. C'est la première édition du Festilive vendredi et samedi à Porrentruy. Christophe Willem et Jean-Baptiste Guégan sont attendus en tête d'affiche. 25 tonnes de matériel sont nécessaires pour transformer la patinoire en salle de concert, pour assurer un spectacle de qualité en termes d'acoustique, mais aussi de lumière, comme l'explique Alexandre Mathieu, responsable de l'entreprise Studio Plus.
On a répondu d'abord aux fiches techniques des deux artistes tête d'affiche, donc Guégan et Christophe Willem, où on a créé un design en partenaire avec eux, avec leurs fiches techniques et les nôtres pour les autres groupes. Et du coup, une fois que ça a été validé, on fait l'installation dans la patinoire, avec bien sûr les imprévus comme l'écran et autres parties qui nous gênent, donc pour s'adapter au mieux au lieu, quoi.
Qu'est-ce qu'on entend par fiche technique ?
En fait, les producteurs nous envoient une fiche technique, un design lumière que a fait le designer de l'artiste pour tout leur festival durant l'été. Et nous, on fait au mieux pour être identique à leur fiche technique.
C'est plus ou moins compliqué en fonction des artistes ?
Oui, parce qu'il faut essayer de fédérer tous les artistes qui n'ont pas les mêmes fiches techniques. Donc essayer de faire un plan global et s'adapter au mieux pour tout le monde pour éviter des changements de lumière ou de déplacer des lumières pendant le show.
Vous êtes venu avec quoi comme matériel ?
Alors nous, on a une semi rien que pour les lumières, plus, on va dire, une semi pour la scène, parce qu'on a géré en même temps la partie scène et la partie lumière.
Alexandre Mathieu au micro d'Emilie Mumenthaler. La première édition du Festilive a donc lieu vendredi et samedi à la Raiffeisen Arena à Porrentruy, qui se prépare à accueillir jusqu'à 3500 festivaliers. De la musique, il y en aura aussi sur la terrasse du Café du Soleil à Seignelégier fin juin et début juillet. Le mini-festival Terrasse Musicale est de retour sur 2 week-ends après sa première édition de l'année dernière. Ce sera donc du 23 au 25 juin et du 30 juin au 2 juillet. La programmation met à l'honneur des artistes régionaux au style très varié, du rock à la salsa. L'événement est gratuit malgré un budget d'environ 12 000 francs. Un choix expliqué par le coordinateur de l'espace culturel du Café du Soleil, Thomas Losely.
L'idée, c'est vraiment que ce soit un événement convivial qui soit ouvert à tout le monde. Il sera gratuit, mais cette année, quand même, on va se permettre de faire une petite collecte sous forme de vente de badges, mais ce ne sera pas obligatoire. C'est vrai qu'au Soleil, on a souvent des événements qui ne sont pas payants, où les gens donnent ce qu'ils veulent à travers des collectes ou des chapeaux.
C'est important quand même d'offrir cette possibilité aux gens de donner un petit quelque chose. On pense que le budget, quand on parle d'un mini-festival comme le vôtre, c'est pas toujours facile à tenir.
Oui, bien sûr. Alors toutes les aides sont, sont les bienvenues, ça c'est évident. Et puis il y a aussi le fait que les gens se rendent compte de la qualité de ce qu'on leur offre. On laisse la possibilité aux gens de donner selon leurs moyens et selon s'ils ont aimé ou pas.
Thomas Losely qui répondait à Thomas Berbera, programme complet de Terrasse Musicale à retrouver en lien sur rfj.ch. RFJ, il est 18h11.
Sport.
Iga Świątek et Béatrice Haddad-Maia dans le dernier carré à Roland-Garros. La Polonaise, numéro 1 mondial, s'est qualifiée cet après-midi pour les demi-finales du Grand Chelem parisien en écartant l'Américaine Coco Gauff. En deux manches, elle rejoint la Brésilienne Haddad-Maia qui s'est quant à elle défait à la surprise générale de la Tunisienne 11 Jaber en 3-7. 1300 gymnastes vont débarquer ce week-end à Courgenay. La fête cantonale jurassienne de gymnastique se tient de vendredi à dimanche dans le village Ajoulo, événement qui a nécessité de longs mois de préparation pour les organisateurs. Cette fête cantonale de gym se veut fédératrice et intergénérationnelle, explique sa coprésidente Élodie Clay.
Je pense que c'est un peu l'idée générale de la gymnastique, en tout cas dans le canton du Jura, même dans toute la Suisse. Et puis on avait vraiment envie de faire quelque chose avec l'intégralité des sociétés du canton et qu'on puisse tous se retrouver une fois au même endroit.
Est-ce que vous êtes parvenu à faire ?
Oui, j'espère.
On doit parler aujourd'hui d'une fête ou d'une compétition ?
C'est vraiment les deux. C'est une compétition qui n'a pas grande valeur sportive au niveau des résultats pour les athlètes, mais c'est quand même quelque chose, je crois, qu'ils ont plaisir à participer pour l'ambiance, pour retrouver les autres athlètes qu'ils ne voient pas forcément tout le temps, suivant quelle discipline ils pratiquent.
Élodie Clay, qui était l'invitée de la matinale aujourd'hui sur RFJ avec le responsable marketing Noah Neukom. Leur entretien est à retrouver en vidéo sur rfj.ch. Tout de suite, c'est la météo et Pure Politique qui arrive à 18h20.